VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 20 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Le président Alassane Ouattara rencontre le médiateur togolais dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. L'ONG Greenpeace dénonce la mise aux enchères de blocs pétroliers et gaziers en RDC. Au Soudan, après un conflit tribal sanglant, la colère des Haoussa gagne une bonne partie du pays. En Libye, rencontre inédite à Tripoli entre chefs militaires rivaux. Le président russe Vladimir Poutine parle d'avancée sur les exportations de céréales. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré hier le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé. Ce dernier assure une médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour trouver une solution à la détention par Bamako de 49 militaires ivoiriens depuis plus d'une semaine. Yacouba Ouédraogo.
Selon une note de la présidence ivoirienne, le président Alassane Ouattara a exprimé ses remerciements à son homologue togolais Faure Yacimbe pour les initiatives prises en vue de trouver une solution rapide. Lundi, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, s'est rendu à Bamako où il a rencontré le président de la transition, Assimi Goïta, qui a appelé à une médiation du Togo. Le président malien s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation. La Côte d'Ivoire avait demandé mardi dernier la libération sans délai de ses 49 militaires arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Ils sont accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires. Selon Abidjan, la présence de ces soldats dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali est bien connue des autorités maliennes. Il s'agissait de la 8e rotation de soldats à venir au Mali pour cette mission, a détaillé la Côte d'Ivoire.
L'organisation environnementale Greenpeace invite les majors du pétrole et du gaz à s'abstenir d'acheter des droits sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers mis aux enchères par la République démocratique du Congo afin de protéger la biodiversité, Jacques Aristide.
Les appels d'offres pour l'attribution des droits sur ces blocs vont démarrer jeudi prochain, selon Didier Boudimbou, le ministre congolais des hydrocarbures. Toutefois, dans des lettres envoyées aux compagnies pétrolières dans le monde, Greenpeace met l'alerte rouge contre cette vente aux enchères que l'organisation qualifie de mauvais augure. La vente, ajoute-t-elle, pourrait avoir lieu au détriment de la biodiversité et du climat mondial. Cette vente aux enchères ne se contente pas de tourner en dérision l'image de la RDC en tant que solution à la crise climatique. Elle expose les Congolais à la corruption, à la violence et à la pauvreté qui accompagnent inévitablement la malédiction du pétrole, affirme Irène Wabiwa de Greenpeace en RD Congo, en ajoutant que les communautés locales s'y opposent farouchement. Dans une déclaration commune, les ministres Eve Bazaïba de l'Environnement et Didier Boudimbou des Hydrocarbures affirment que les blocs pétroliers concernés par la mise en vente sont situés hors des zones protégées, mais Greenpeace maintient que 9 d'entre eux se trouvent dans des régions protégées.
Au Soudan, des milliers de l'ethnie Haoussa impliqués dans un récent conflit tribal qui a fait 79 morts ont manifesté hier à travers le pays au cri de « vengeance ». Les Haoussa sont aussi des citoyens. Le point avec Rosine Munezero.
À Khartoum, sur l'avenue de l'aéroport, l'une des principales artères du centre-ville, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des centaines de manifestants qui brandissaient des banderoles disant non aux tueries de Haoussa. À El Obeid, à l'ouest de Khartoum et à Port-Soudan, sur la mer Rouge, ils étaient dans chaque ville, plusieurs milliers à converger vers le siège du gouvernorat, au cri de les Haoussa vaincront. À Gedaref, où vivent 3 millions de Haoussa, ils étaient quelques 4 000 manifestants. La semaine dernière, Les affrontements dans le Nil Bleu ont fait 79 morts et 199 blessés, ce qui a entraîné le déplacement de 17 000 personnes, dont 14 000 survivent dans trois écoles d'Al-Damazine, chef-lieu du Nil Bleu, a rapporté mardi l'ONU. Ces affrontements éclatent généralement pour l'accès à l'eau et aux terres, vitales pour agriculteurs et éleveurs, souvent issus de tribus rivales, dans ce pays où de très nombreuses armes circulent après des décennies de guerre civile.
En Libye, le général Abdelrazak Al-Nadouri, numéro 2 de l'armée de l'Est du maréchal Khalifa Haftar, et son homologue de l'Ouest, le général Mohamed Ali Al-Haddad, réunis pour la première fois à Tripoli, ont appelé mardi à unifier le commandement des deux armées. Une telle mesure pourrait sceller la réunification des forces armées dans ce pays miné par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères. Les deux généraux ont également discuté de l'épineux dossier de la présence sur le sol libyen de milliers de mercenaires et combattants étrangers et convenu de mener des patrouilles aux frontières, notamment dans le sud, pour endiguer les flux de migrants, les réseaux de passeurs et trafiquants en tout genre. Au Maroc, un tribunal a condamné hier 33 migrants à 11 mois de prison pour entrée illégale, selon leur avocat, après une tentative massive et meurtrière de franchissement de la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla le mois dernier. Le point avec Ginny Niwa.
Le tribunal de Nador, près de la frontière entre le Maroc et Melilla, a condamné les 33 migrants à 11 mois de prison chacun, a déclaré maître Khalid Ameza, qui qualifie cette peine de très lourde. Ces migrants clandestins étaient poursuivis pour leur entrée illégale sur le sol marocain, violence contre les forces de l'ordre, participation à un attroupement armé et refus d'obtempérer, selon un communiqué du tribunal. Nous espérons que la Cour d'appel va rectifier cette sentence sévère, a déclaré le bureau de Nador du groupe de défense des droits de l'homme, AMDH. Au moins 23 migrants sont morts le 24 juin. Quelques 2000 personnes avaient tenté de franchir la barrière qui sépare l'enclave du sol marocain. Il s'agit du pire bilan depuis des années de tentatives de passage de migrants dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi que la médiation de la Turquie avait permis une avancée sur la question des exportations par mer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui manquent à l'équilibre alimentaire mondial et que Kiev accuse la Russie de bloquer. Mohamed Houmfa.
Ces exportations sont cruciales, notamment pour le continent africain. À noter cependant que M. Poutine a aussi exigé en échange une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes à l'issue d'entretiens hier à Téhéran avec ses homologues turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Ibrahim Raisi. Pour Washington, cette rencontre prouve l'isolement croissant de la Russie qui doit maintenant se tourner vers l'Iran pour obtenir de l'aide, selon John Kirby, un porte-parole de la Maison-Blanche. Sur le terrain, l'armée russe a continué de frapper l'Est et le Sud de l'Ukraine. Des frappes de missiles ont touché plusieurs villes de l'Est, faisant un mort à Kramatorsk, grande ville du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Au sud, dans la région d'Odessa, le grand port ukrainien de la mer Noire, il y a eu au moins 6 blessés, dont un enfant, selon la présidence ukrainienne.
La Syrie a annoncé aujourd'hui qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec Kiev conformément au principe de réciprocité après que l'Ukraine a pris la même mesure fin juin à la suite de la reconnaissance par le gouvernement syrien de l'indépendance des républiques séparatistes pro-russes. La Syrie et la Russie sont alliées depuis des décennies, mais les liens se sont sensiblement renforcés à la faveur du conflit syrien et de l'intervention militaire de Moscou à partir de 2015 aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Ici aux États-Unis, la justice a fixé mardi le début du procès de Twitter contre Elon Musk. Au mois d'octobre, Twitter avait demandé une procédure accélérée. Une juge du Delaware a fait droit à la requête du réseau social Jean-Roger Bion.
Dans sa plainte, Twitter a accusé Elon Musk d'avoir fait preuve d'hypocrisie et de mauvaise foi. La plateforme a lancé la semaine dernière des poursuites contre le patron de Tesla et de SpaceX pour le forcer à honorer son engagement de l'acquérir pour 44 milliards de dollars. Les avocats de la société estiment qu'il a changé d'avis face à la récente baisse de ses cotations en bourse. La défense d'Elon Musk avait déposé vendredi un recours pour que les hostilités ne soient pas ouvertes avant l'année prochaine. Ses avocats assurent que les experts vont devoir analyser des montagnes de données pour prouver, comme l'affirme le multimilliardaire, que la plateforme est truffée de comptes automatisés et de spasmes. La juge Kathleen McCormick, présidente d'un tribunal spécialisé en droit des affaires dans le Delaware, a reconnu que des délais risquaient de causer des dommages irréparables à Twitter. Elle a aussi mentionné qu'il n'était pas certain que le paiement de dommages et intérêts de la part d'Elon Musk suffise à réparer les torts.
La Muniteco Nani Talani.
Au Rwanda, le projet de soutien au développement agricole de Bugesera a aidé à irriguer les terres et à créer des bassins de captage d'eau au profit de près de 15 000 familles. Il a permis aux paysans d'avoir les moyens de lutter contre la sécheresse, d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer la sécurité alimentaire dans la région. Il est financé par le Fonds africain de développement grâce à un don de 14,79 millions de dollars. La Banque mondiale annonce la levée de la suspension de ses opérations financières au Mali, une mesure prise en mai 2021 après deux coups d'État en moins d'un an, selon une note mardi du ministère de l'Économie et des Finances malien. Cette décision permettra dans les plus brefs délais le déblocage des paiements des entreprises concernées et la relance immédiate des activités des 10 projets et programmes. Terminons par le président russe Vladimir Poutine qui a évoqué mardi des progrès dans les négociations pour l'exportation des céréales d'Ukraine via la mer Noire lors d'une rencontre à Téhéran avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour sa médiation dans ce dossier. Les deux dirigeants doivent y évoquer les mécanismes pour permettre les exportations via des couloirs maritimes sûrs de céréales d'Ukraine bloquées par l'offensive militaire russe dans ce pays au risque de provoquer une crise alimentaire mondiale.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Ivoirien Sébastien Allaire, très ému après le soutien reçu depuis l'annonce de son cancer.
Oui, l'attaquant ivoirien dit être touché par les nombreux messages de soutien et d'affection depuis l'annonce qu'il souffre d'un cancer des testicules, a écrit l'avant-centre du Borussia Dortmund sur Twitter. Lundi, le club allemand a annoncé son attaquant recruté à l'Ajax Amsterdam a quitté le cadre d'entraînement pour se soigner. Une tumeur dans les testicules a été découverte après des examens médicaux intensifs, a écrit le Borussia Dortmund sur son site, expliquant que l'attaquant de 28 ans s'est plaint d'un malaise après l'entraînement lundi matin en Suisse, où le vice-champion d'Allemagne prépare la nouvelle saison.
Athlétisme avec les championnats du monde qui ont lieu à Eugene, ici aux États-Unis.
Les athlètes africains continuent de faire sensation dans les disciplines où ils sont attendus. Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali est sacré au 3000 mètres steeple pour la première fois en 8 minutes 25 secondes 13. El Bakkali a devancé l'Éthiopien Lamecha Girma et le champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto. Premier titre majeur également pour l'Éthiopienne Gotitom Gebreselassie, vainqueur du marathon en 2h18 minutes 11 secondes. Son record personnel. Elle s'est imposée devant la Kenyane Judith Cheptoum Korir et l'Israélienne Lona Shemtai.
Le COVID-19 est aussi présent à ces mondiaux d'athlétisme.
Quatre nouveaux membres de la délégation du Japon ont été contrôlés positifs au COVID-19, portant à 15 le nombre de membres de cette représentation infectés par le virus selon la Fédération japonaise. Parmi ces nouveaux cas, un officiel et trois athlètes dont le sprinteur Yuki Koike, médaillé de bronze du 4x100 mètres aux Mondiaux 2019, contraint de déclarer forfait pour le 200 mètres. Les 11 cas précédents annoncés hier et le week-end concernaient trois marathoniens, l'entraîneur en chef de la sélection nippone, trois entraîneurs et quatre membres du staff. Ces 15 personnes doivent observer une période d'isolement de 5 jours.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En visite à Bukavu et à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a manifesté publiquement son mécontentement face à la force onusienne présente depuis plus de 20 ans dans le pays. Pour beaucoup d'habitants de Goma, la MONUSCO doit plier bagage. Un reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO sur notre territoire.
Ces propos du président du Sénat congolais, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ont été lancés samedi dernier à Bukavu. Soki Moulekia, activiste de la Renaissance africaine, réagit à cette déclaration.
Nous, on n'a qu'à le juger à partir des résultats. Nous sommes en train de parler de la présence de la force onusienne sur le sol de la RDC depuis plus de 2 décennies déjà, mais il y a l'insécurité qui bat encore son record. Il est temps de prendre des risques et d'oser. Si, sans la présence de la MONUSCO, ce serait vraiment une tragédie ou bien le chaos pour nous.
Après 22 ans d'intervention au Congo, la plus grande opération de maintien de la paix au monde n'a pas réussi à courber les groupes armés de toutes sortes. Il y a les rebelles EDF, les rebelles FDLR, les rebelles du M23, la milice Codeco et une myriade de groupes Mai Mai. Il y a le Mai Mai Mutomboki, les Mai Mai Jackson et les Mai Mai Bakatakatanga, autant de groupes armés qui tuent et déciment le pays. Ghislain Bougiri, diplômé en sciences politiques.
À son arrivée, je me souviens, on était encore jeunes, nous avions au pays une dizaine de groupes armés. Mais après son arrivée, nous avons assisté à la multiplication très rapide des groupes armés. Les preuves sont d'ailleurs là, selon lesquelles la MONUSCO fabrique des groupes armés.
Selon Maître Djiminzi Ali, activiste des mouvements citoyens, le président du Sénat ne devait pas tenir ses propos à Bukavu en ayant les responsabilités parlementaires d'initier les processus pour mettre officiellement à la porte la MONUSCO, qui selon lui reste une force inutile.
Nous ne cesserons de dire que la MONUSCO est restée une force inutile dans notre pays. Et ce que Bahati fait là, ce n'est que du populisme. Nous attendons de lui qu'il fasse la diplomatie parlementaire et ne pas faire ce que nous avons toujours fait, ce que nous devons faire comme population. Mais retenez que la population va bientôt chasser la MONUSCO de notre pays.
Le président du Sénat, Bahati Lukwebo Modeste, avait conclu samedi en disant que seule la RDC avec son armée pourra se sortir de l'insécurité endémique. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Législative au Sénégal, la principale coalition d'opposition par 100 personnalités politiques connues aux législatives. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est difficile de voter pour de parfaits inconnus. Pour d'autres, l'essentiel est que le régime en place ne gagne pas, peu importe le profil des élus. Un reportage de Sédina Abagué, notre correspondant à Dakar.
Qui de Yehu Askanoui ou Beno Bokoyakar dirigera l'Assemblée nationale après les législatives du 31 juillet? Cette question est le sujet du débat entre ces deux amis mécaniciens trouvés dans leur atelier. Pour Mambaye Diop, même si les leaders de la coalition de l'opposition ne sont pas de la course, leurs remplaçants sont assez compétents pour aller à l'Assemblée.
Ce sont des humains dotés d'intelligence comme les leaders, donc ils peuvent bel et bien les remplacer. Être député dans ce pays, c'est pas diable. Il suffit de savoir ce que veut la population et défendre ses intérêts. C'est juste ça. Si quelqu'un est en pro de la coalition Yehu Askanoui, même s'il ne les reconnaît pas, il peut voter pour eux.
Même s'ils ne les connaissent pas, beaucoup de Sénégalais ont confiance en ceux qui sont investis dans la liste des suppléants de la coalition d'opposition Yehu Askanoui. C'est le cas de Baye Diop, un menuisier, qui dit que les valeurs des leaders doivent forcément déteindre sur leurs suppléants.
Je vais quand même voter pour la coalition d'opposition Yehu Askanoui, même si je ne connais pas ses candidats. Moi, j'ai confiance en Ousmane Sonko et je pense que lui et les autres leaders ont inculqué les valeurs qu'ils défendent aux autres. Donc, j'ai confiance.
Mambaye Mahdi Ndiaye, lui, se veut clair, il ne va pas voter pour des inconnus et prône le boycott de ce scrutin.
Non, man, tu m'as demandé de voter à ce qu'on nous sommes connus dans l'engagement de Chile, cela veut dire qu'on nous a beaucoup tenu.
Personnellement, je ne compte pas voter pour une liste où il n'y a pas Sonko et les autres leaders. Je ne le ferai pas. Et je pense que je vais même boycotter ces élections législatives. C'est la meilleure option.
Donc, on nous a beaucoup.
À cause des erreurs notées par la direction générale des élections après le dépôt de leur liste, Ousmane Sonko, Dethie Fall, Aïdou Mbouch et d'autres figures de la coalition d'opposition, Yewé Askanoui, ne seront pas à l'hémicycle pour la 14e législature malgré la contestation de cette décision administrative. Cependant, pour un bon nombre de leurs partisans, le mot d'ordre est le même, tout sauf Benno Bokou-Yakar, la coalition au pouvoir. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Éthiopie, malgré une guerre civile en cours et une sécheresse record, la production de blé devrait bondir de 70% cette année. Le pays cherche à réduire sa dépendance quant aux importations alimentaires. Alors que l'augmentation de la production de blé offre une lueur d'espoir, des millions d'Éthiopiens déplacés ont toujours besoin d'une aide. De Semera, dans la région Afar, un reportage d'Henry Wilkins. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
À la périphérie de Semera, une ville de la région Afar, des tracteurs préparent le sol pour planter du blé. Les champs irrigués sont un spectacle rare, mais de plus en plus courant dans la région. Cette volonté du gouvernement éthiopien de planter davantage de blé fera passer la production céréalière de 1,42 million de tonnes l'an dernier à 2,4 millions de tonnes cette année, selon les chiffres officiels. Ghetto Kassa travaille dans les champs de Semera.
Le gouvernement vise à ce que ce programme couvre toute demande provenant du marché et réduise les importations. Il devrait également offrir des opportunités d'emploi à la population.
Hilmarayam Abara, un autre travailleur, dit que le projet a eu un impact positif pour lui.
Je travaille pour 1900 birres dans un autre programme. Mais maintenant que ce programme a commencé, je gagne 3000 birres.
Cela signifie que les revenus d'Abara sont passés de 36 à 57 dollars américains par mois. L'objectif du gouvernement est d'éliminer la nécessité d'importer du blé d'ici l'année prochaine. Mohamed Nohar Ali est fonctionnaire à Semera.
Pendant l'année écoulée, nous prévoyons de semer du blé sur 8400 hectares de terre. Nous avons aussi réussi à mettre en œuvre cet objectif grâce à la coopération des efforts conjoints entre le gouvernement éthiopien et le peuple. Nous nous efforçons aussi d'accroître nos efforts et d'augmenter la production.
Cependant, le département américain de l'agriculture estime que l'objectif de l'Éthiopie d'éliminer le besoin d'importation l'année prochaine est irréaliste. Le besoin du pays en matière d'aide alimentaire continue persiste, déclare Valérie Browning de l'Association pour le développement pastoral, une organisation à but non lucratif qui intervient à Semera.
La région Afar n'a jamais été dans une pire situation. Nous avons une situation qui se double entre les effets du conflit et ceux de la sécheresse. Parce que la situation actuelle est que le gouvernement dit qu'en fait 95% de tous les Afars sont en situation d'insécurité alimentaire.
La grave sécheresse et la guerre dans la région du Tigré ont laissé plus de 20 millions de personnes dans un besoin selon le Programme alimentaire mondial. En plus, les parties belligérantes sont accusées d'empêcher la nourriture d'atteindre les populations vulnérables. La crise en Ukraine a exacerbé les conditions existantes, réduisant les importations de blé et la Russie a imposé des restrictions sur les importations d'engrais. Cela pourrait rendre la culture du blé plus difficile et plus coûteuse. Chimimba David Firi est le coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est.
Des pays comme l'Éthiopie qui ont importé du blé et des engrais sont très durement touchés.
Pour ceux qui sont le plus dans le besoin, toute aide, qu'elle soit du blé ou autre, ne peut arriver qu'au bon moment.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nous faisons le bilan de la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président des États-Unis. Le périple avait notamment pour objectif de raffermir le rôle de l'Amérique dans cette partie du monde avec des attentes concernant les prix du pétrole, de même que les droits humains. Quels sont les résultats de ce voyage de l'actuel locataire de la Maison-Blanche? Y a-t-il eu des avancées notables et des percées diplomatiques? Attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Ici aux États-Unis, des bus remplis de migrants continuent d'arriver à Washington en provenance du Texas. Ils sont envoyés par Greg Abbott, le gouverneur républicain de l'État, qui estime que le président démocrate Joe Biden n'a pas fait assez pour sécuriser la frontière sud avec le Mexique. Reportage de Jacopo Luzzi, le récit est de Jean-Roger Bion.
D'après les responsables du district de Columbia, plus de 3100 papiers sont arrivés dans la capitale américaine en provenance du Texas depuis le mois d'avril. Les familles y demeurent pendant des jours dans l'attente de parents ou bien elles attendent que des organisations caritatives les déplacent vers d'autres endroits ou encore leur procurent des billets de bus pour d'autres villes comme New York ou Chicago. Arnaldo Bienvino est un migrant vénézuélien.
Je ne veux absolument pas qu'ils me donnent quoi que ce soit. Je veux travailler. Si quelqu'un ici à Washington me dit « Je vous offre un toit pour vous abriter et un emploi sûr », je resterai ici.
L'un des bus qui est arrivé à Union Station contenait un groupe de demandeurs d'asile vénézuéliens qui ont traversé la périlleuse vallée de Darien entre la Colombie et le Panama il y a plusieurs mois avec de nombreux enfants en bas âge. Ils se sont confiés aux autorités à la frontière américaine. Ces derniers leur ont fait remplir des formalités d'immigration avant de les laisser embarquer dans un bus. Ils attendent maintenant une date de procès. Certains migrants disent qu'un comité d'accueil les attendait à la gare à Washington. Les organisations humanitaires comme le Centre de ressources d'Amérique centrale ou CARESEN font ce qu'elles peuvent. Abel Nunez est le directeur exécutif du CARESEN.
Je pense que le problème actuel est le manque de soutien des gouvernements locaux et du gouvernement fédéral pour répondre aux besoins de la population. Parce que nous n'avons pas d'endroit à Washington où nous pouvons les recevoir.
Le ministère américain de la Sécurité intérieure n'a pas encore répondu aux requêtes de la VOA pour des commentaires sur l'afflux des réfugiés dans la capitale fédérale. Mais le gouvernement des États-Unis maintient sa position en matière d'immigration selon laquelle personne ne doit voyager sans un visa valide. La ville de Washington étant débordée, les organisations humanitaires s'occupent d'abord des enfants et des femmes et tentent d'acheter des billets pour que les migrants puissent poursuivre leur route ailleurs. Pour l'instant, personne ne sait si d'autres bus avec des migrants arriveront du Texas, mais les activistes ici à Washington disent qu'ils ne s'attendent pas à ce que les arrivées s'arrêtent.
We won't go rest.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.